Nous rejoignons maintenant Mme Laurence Monnet, qui est professeure au département d'histoire de l'Université de Montréal, mais qui s'attarde surtout à l'histoire de l'évolution médicale, de la médecine et de ses découvertes. On parle, entre autres, elle est spécialiste dans l'histoire de la vaccination. Mme Monnet, bonjour.
Bonjour, M. Mongrain.
Dites-moi, je ne sais pas si c'est récent, mais je pense qu'il y a toujours eu une relation amour-haine entre l'humanité et la vaccination. Est-ce possible?
C'est tout à fait vrai. On parle beaucoup d'hésitation face à la vaccination depuis le début de la campagne contre la COVID. Mais en fait, les hésitations, les refus, les contraventions, elles ont toujours existé. Enfin, depuis que la vaccination existe.
Et ça existe depuis quand, le phénomène de la vaccination?
Alors, la vaccination est introduite à la toute fin du 18e siècle avec un premier vaccin qui va très longtemps rester le seul vaccin disponible, qui est le vaccin contre la variole.
Bon, la variole qui a été, évidemment, ça a été dévastateur comme maladie à travers le monde.
La variole a été une maladie absolument dévastatrice et des millions de décès et des dizaines de millions de cas encore à la fin du 19e siècle.
Est-ce que la recrudescence des maladies peut ramener des gens à la vaccination? Je pense à la polio. Ça a monté pendant un temps, ça a diminué dans l'histoire et il y a eu certaines recrudescences. Les gens y ont-ils adhéré davantage lorsqu'ils ont vu revenir cette maladie?
Alors, c'est un des grands drames de la vaccination, c'est-à-dire que quand une maladie surgit et qu'on en a peur, individuellement ou collectivement, on va avoir tendance à vouloir se faire vacciner. Pourquoi ? Parce que il y a toujours un calcul coût-bénéfice. Est-ce que j'ai plus peur de la maladie, plus peur du vaccin ? Qu'est-ce qui vaut mieux pour moi ? À l'échelle individuelle, à l'échelle familiale. Et donc, face à une, par exemple, une résurgence de la polio, alors ici sur le continent nord-américain, ces résurgences n'existent pas ou n'existent plus, mais dans les années 50, 60, c'était un phénomène très important et les parents avaient très peur pour leurs enfants. Et donc, les taux de vaccination contre la polio, qui étaient quand même lourds de conséquences, on pouvait enfin mourir de la polio ou rester handicapé à vie, eh bien, les taux de vaccination étaient très élevés. Mais au jour d'aujourd'hui, concernant la polio, si on veut rester avec le cas de la polio, c'est sûr que les parents n'en ont pas l'expérience, ni directe ni indirecte. La polio, c'est quelque chose qu'on voit encore dans certains pays très très lointains et de façon très très limitée. Et donc, on a tendance non pas à ne pas faire confiance dans le vaccin contre la polio, mais à se dire oh, « bah, la polio, elle n'existe plus, alors est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'on passe par la vaccination ?»
Quand on regarde le phénomène aujourd'hui, dans cette pandémie que nous traversons de la COVID-19, est-ce que ces réactions sont exacerbées? Comment on explique cette résistance? Ici, au Québec, on voit qu'il y a une disponibilité, mais il y a des groupes qui se sont presque sclérosés autour de la négation de cette maladie, voire même des risques de la vaccination. Est-ce que c'est un phénomène qui est plus fort aujourd'hui qu'il l'était dans le passé? Il y a des gens qui disent que le vaccin, ça amène l'autisme pour la rougeole. Je pense qu'on a amené ça. On trouve. D'où sortent ces idées? Est-ce qu'elles ont une base scientifique?
Alors, sur la base scientifique, moi, je suis une historienne, je ne suis pas médecin, ni spécialiste en épidémiologie ou en immunologie. Les hésitations face à la vaccination, elles ont toujours existé. Est-ce qu'elles sont plus fortes maintenant qu'avant? C'est très difficile de se prononcer là-dessus. On soulève toujours, effectivement, la fameuse étude de Wakefield reliant la vaccination contre la rougeole et l'autisme en 1998, mais c'est pas forcément le point d'ancrage de l'hésitation. La plupart des historiens savent très bien que les hésitations, elles ont été importantes à plusieurs moments de l'histoire, ici et ailleurs. Après, c'est difficile de documenter jusqu'à quel point on a une progression, même si on peut imaginer que les médias sociaux et la rapidité avec laquelle l'information circule depuis quelques décennies peut jouer un rôle dans cette direction-là. Après, sur la nature et la variabilité des hésitations et de leurs déterminants, des facteurs qui sont responsables, ben, on retrouve des choses assez similaires à ce qu'on voyait au 19e siècle. La toxicité des vaccins, ça c'est quelque chose qui n'a pas forcément de base scientifique, mais qui pour les gens a un rôle à jouer dans leurs décisions, et surtout quand il s'agit de vaccins pour les très jeunes enfants. L'autre aspect souvent en lien, c'est l'efficacité. Ah bah moi, je vais pas prendre ce vaccin-là, son efficacité est pas prouvée, ou je risque quand même de faire la maladie même si je suis vaccinée. Ça, c'est des discours qu'on entend en ce moment. Bah oui, mais je pourrais quand même être contaminée. Alors pourquoi je vais y aller? Et puis au-delà de ça, beaucoup dans les mouvements de refus qui sont parfois très explicites, au travers de manifestations, au travers de propos très radicaux, eh bien, le vaccin est en fait une espèce d'opportunité pour se prononcer sur les institutions, sur l'État, sur l'autoritarisme de l'État, ou le fait que l'État a failli dans sa gestion de la pandémie.
Et ça, c'est historique. Il y a des cas historiques de cela.
Absolument. Et la raison pour laquelle c'est historique, et des manifestations contre la vaccination, surtout la vaccination obligatoire ou très fortement recommandée, on en voit dans l'histoire du Québec, à Montréal en 1885, par exemple, c'est un moment particulièrement fort, eh bien, c'est parce que la vaccination, c'est l'État qui dirige les campagnes, c'est l'État qui oblige ou recommande. Et donc ce lien entre la mesure préventive et l'État fait qu'un certain nombre de réactions négatives vont en fait non pas se porter sur la technique et son rôle préventif, mais sur la main qui vaccine, je peux le dire comme ça.
Rappelez-nous ce que c'était que cette levée du bouclier à cette époque.
Alors, en 1885, on est en pleine épidémie de variole, justement. Donc, on a une époque où on a un seul vaccin, c'est la vaccination contre la variole. Et des tensions surgissent, en particulier entre francophones et anglophones à Montréal. Les anglophones accusant les francophones de Montréal d'être responsables de la dissémination de la maladie. Et se surajoute à ça la décision au niveau de la municipalité, en l'occurrence, parce que les décisions entourant la vaccination à l'époque se font beaucoup plus au niveau municipal, d'obliger à la vaccination. Et ces deux éléments-là, donc les tensions entre communautés et l'obligation vaccinale, vont faire en sorte que des gens vont descendre dans la rue et manifester contre la vaccination, et ça va entraîner une intervention policière assez forte. C'est un moment important dans l'histoire des épidémies au Québec.
Il y a quelque chose d'assez paradoxal chez l'animal social qui est l'être humain. On veut que l'État s'occupe de nous, mais s'il s'en occupe à nous inciter à la vaccination, eh bien là, il brime les libertés individuelles. Il y a un paradoxe qui est assez particulier, qui crée cette dynamique-là, j'ai l'impression, parce qu'on veut l'État-providence d'un côté, mais de l'autre côté, on veut pas qu'il s'occupe de nous.
Voilà, exactement. Vous avez tout à fait mis le doigt sur... On veut l'État-providence, mais dès qu'il s'agit d'entrer un petit peu trop dans nos libertés individuelles et d'obliger un certain nombre de choses, l'État, on préférait qu'il n'existe pas. Ce qui est révélateur en arrière de ça, en fait, et j'insiste souvent beaucoup là-dessus, c'est une espèce d'absence d'éducation collective à la valeur de la prévention. C'est-à-dire qu'en fait, on connaît le système de santé, les hôpitaux, les grosses machines pour faire de la prévention, du cancer, le médecin qui va nous soigner, nous proposer un médicament, un traitement. Par contre, quand il est question de mesures de prévention collective, qui est particulièrement bien représentée par la vaccination, eh bien là, on manque de repères. Et on oublie qu'effectivement, l'État, Providence et le système de santé, c'est pas juste les hôpitaux et les médecins qui nous soignent, c'est aussi la prise de décision, qui n'est pas une prise de décision facile, de recommander, voire d'obliger, alors on n'est pas dans ce cas-là en ce moment au Québec, on le sera probablement pas dans les prochains mois, d'obliger à la vaccination, comme on le voit directement ou indirectement surgir dans certains pays aujourd'hui, que ça soit la France, l'Italie ou peut-être les États-Unis.
Dans le domaine où vous êtes spécialisé, c'est-à-dire l'histoire des avancées médicales et également de la vaccination. L'histoire va vite, j'ai l'impression, parce que les technologies scientifiques font en sorte qu'on va rapidement. On a réussi à faire un vaccin ici en 18 mois ou 20 mois contre la COVID. Est-ce que ça, cette rapidité d'exécution ne fait pas un doute sur la garantie de sécurité du produit qui sort? Tout sort rapidement maintenant aujourd'hui. Et nous, peut-être que nous avons une résistance à la vitesse dans des secteurs où on est des peu connus, où on ne connaît pas les choses.
Oui, alors là, c'est vrai qu'on partage très largement une ignorance des processus scientifiques et de découverte et de mise au point des vaccins. C'est des choses sur lesquelles finalement on n'a aucun repère. Et oui, le fait que ça aille vite, c'est l'objet de soupçons en fait. En même temps, c'est pas la première fois qu'on développe des vaccins entre guillemets, aussi vite. Le cas de H1N1 en 2009 était un autre cas intéressant, d'ailleurs, qui avait suscité un certain nombre de réactions. Et puis, oui, l'animal social qui veut bien faire confiance à la science aime bien aussi que la preuve soit faite sur le long terme de sa valeur. Et quelque part, c'est légitime. Je veux dire, il n'est pas question de dire par là que les vaccins ne sont pas de grande valeur, mais l'idée qu'on a besoin de recul pour se faire une tête, pour comprendre comment ça fonctionne, pour l'accepter, finalement est un comportement humain assez légitime.
Merci beaucoup, Laurence Monnet, de ces lumières et de votre connaissance, parce qu'on apprend beaucoup de l'histoire. Merci bien.
Je vous remercie.
Merci.
Bonne journée.
Au revoir, vous aussi.